et bonne soirée avec nous sur France Inter. Il est 19h. Sébastien Pao pour l'info. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Elles meurent sous les coups de leurs conjoints. Le gouvernement ne leur tend pas assez la main. Les associations déçues après le Grenelle sur les violences conjugales. 5 millions d'euros pour 1000 nouvelles places d'hébergement pour les femmes victimes. La possibilité de porter plainte généralisée à l'hôpital ou encore des procureurs référents spécialisés dans les tribunaux. Le détail des mesures dès le début du journal. Les réactions donc. Et la secrétaire d'État Marlène Schiappa au téléphone sonne.
Et oui, pour expliquer, commenter, discuter avec vous de ces mesures, vos avis, vos témoignages. Marlène Schiappa est là, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Et le numéro, c'est le 01 45 24 7000.
Au sommaire également ce soir, monsieur retraite Jean-Paul Delevoye au gouvernement, le député Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État au transport. Boris Johnson, sans majorité absolue au Parlement, dès la rentrée des députés, nous serons à Londres. Air France, qui a déjà Aigle Azur en visuel. Et puis encore un Banksy qui disparaît cette fois près du centre Pompidou à Paris.
France Inter.
C'est une citation de Françoise Héritier qu'on a vue sur les pancartes dans les rassemblements contre les violences conjugales. L'homme est la seule espèce dont les mâles tuent les femelles. Citation sur laquelle Édouard Philippe a en quelque sorte insisté cet après-midi en ouvrant le Grenelle sur le sujet. Certains hommes se sont habitués à une forme d'impunité, a dit le Premier ministre. Plus de 100 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année. Et donc une liste de mesures annoncées cet après-midi par le gouvernement. Mesures insuffisantes, disent les associations. On voit ça dans un instant avec vous. Bonsoir Thibault Lefèvre.
Bonsoir Sébastien.
Mais d'abord donc, ces mesures.
Oui, il y en a 10, un catalogue de 10 mesures d'urgence qui concernent pour l'essentiel toute la chaîne pénale, du recueil de plaintes à l'éventuelle condamnation, avec par exemple la nomination de procureurs référents spécialisés, la création de chambres d'urgence pour traiter les dossiers en 15 jours, la mise en place d'un audit dans les commissariats et les gendarmeries, la possibilité pour les victimes de porter plainte dans les hôpitaux ou le retrait systématique de l'autorité parentale en cas de féminicide. Autre point de satisfaction pour les associations féministes, la généralisation du bracelet électronique anti-rapprochement. Le Premier ministre, Édouard Philippe.
J'ai bon espoir que le bracelet anti-rapprochement puisse être très largement mis en place dès cette année. Grâce à cela, le juge pourra ordonner la mise en place du bracelet dans deux situations. En cas de condamnation pour violence conjugale, mais aussi, j'y insiste, avant toute condamnation, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une ordonnance de protection. Pour être efficace, le bracelet sera posé sous 48 heures après le prononcé de la mesure.
Rien en revanche sur les moyens alloués à la mise en place de toutes ces mesures. Seule réforme fléchée et financée à hauteur de 5 millions d'euros. La création de 1000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires. Il y en a aujourd'hui 2500. Les associations en demandaient 5000.
Et elles ne sont donc clairement pas satisfaites.
Oui, elle demandait hier un véritable plan Marshall des violences conjugales financé à hauteur de 500 millions d'euros minimum. Vous l'aurez compris Sébastien, le gros point noir, c'est le budget. Caroline De Haas milite pour le mouvement féministe Nous Toutes.
On est venu, on a vu, on est déçu. On attendait une mobilisation massive pour en finir avec les violences. On a un empilement de mesures. Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun moyen mis sur la table. Le Premier ministre refuse de répondre à cette question et la balaye d'un revers de main, comme si les moyens n'étaient pas la question centrale. Donc franchement, les annonces, elles sont décevantes. Il y a plus de 100 femmes qui ont été assassinées depuis le début de l'année. On n'a pas le temps d'attendre 2020 pour faire des audits et 2021 pour mettre en place des mesures.
Et il ne faudra peut-être pas attendre l'année prochaine pour voir la suite. Édouard Philippe a prévenu en préambule de son discours. Ces mesures sont des mesures d'urgence qui pourront éventuellement être complétées à l'issue du Grenelle le 25 novembre prochain.
Thibault Lefèvre en direct de Matignon avec Marcos Darras. Merci à tous les deux. Emmanuel Macron, lui, était ce matin au 3919, le numéro d'accueil des violences conjugales installé à Paris. Et pendant ce temps, à Cagnes-sur-Mer, cette image de quelques fleurs et bougies au bout d'une impasse. Petit mémorial à Salomé, 21 ans, tué le week-end dernier par son compagnon. 100e féminicide depuis le 1er janvier. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Cet homme vient d'être mis en examen.
Mis en examen pour meurtre par concubin et placé en détention provisoire, comme l'avait demandé le parquet. Le jeune homme de 26 ans lui reconnaît une dispute en pleine rue, mais nie avoir frappé sa compagne. Il assure avoir quitté les lieux tout de suite après l'altercation. Des propos démentis par les images de vidéosurveillance. On le voit en train de poursuivre la victime, toujours dans la rue, puis revenir sur ses pas un peu plus tard, seul. Quelques heures après, le corps de Salomé est découvert caché sous un tas d'ordures, roué de coups méconnaissables. Une autopsie doit avoir lieu demain matin pour savoir précisément de quoi elle est morte.
L'autre question dans ce dossier, c'est la réactivité de la police.
Deux enquêtes confiées à l'IGPN, la police des polices, l'une des hier administratives sur les conditions d'intervention, quel temps pour arriver, combien de fonctionnaires. Et aujourd'hui, deuxième enquête judiciaire, celle-là pour non-assistance à personne en danger. Des riverains disent avoir appelé les policiers pendant la dispute, insisté sur la violence de l'altercation. Quand la patrouille arrive, elle ne voit personne sur place, fait des recherches, puis repart. Ces enquêtes vont donc maintenant chercher à déterminer si les fonctionnaires auraient pu arriver plus tôt et s'ils ont tenu compte de tous les éléments sur place avant de rebrousser chemin.
Et pour poursuivre sur ce sujet, merci Ariane Grissel. La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, est donc à ce micro dans quelques instants au téléphone sonne.
Au 01 45 24 7000. Il a été ministre de Jacques Chirac. Il revient à la table du Conseil sous Emmanuel Macron.
Le monsieur retraite du gouvernement, Jean-Paul Delevoye, haut commissaire depuis près de deux ans. Bonsoir Cyril Graziani.
Bonsoir.
L'Élysée vient de confirmer ce que monsieur Delevoye lui-même annonçait dans La Voix du Nord.
Ah, car on était habitué jusqu'à présent aux ministres qui annonçaient eux-mêmes leur sortie du gouvernement. Cette fois, c'est le nouveau haut commissaire Jean-Paul Delevoye qui s'en est chargé tout seul en l'annonçant à la PQR en début d'après-midi, quelques heures avant ce communiqué. À 72 ans, Delevoye précise qu'il gardera la même équipe, le même lieu pour être, dit-il, l'interlocuteur privilégié des partenaires et écrire la future loi. Il va épauler la ministre des Solidarités de la Santé, Agnès Buzyn, une tutelle que cette dernière avait revendiquée du fait que son ministère gère le financement de la sécurité sociale, même si elle est déjà mobilisée sur de nombreux fronts, comme le projet de loi bioéthique ou la crise des urgences. L'entrée au gouvernement va permettre à Jean-Paul Delevoye, précise-t-il, d'écrire la future loi, réformant ses régimes de retraite, puis de la présenter en Conseil des ministres, où il pourra désormais siéger, et enfin de la défendre devant le Parlement.
Autre entrée au gouvernement, Cyril, celle du député marcheur Jean-Baptiste Djebbari.
Et là encore, ça n'est pas une surprise. Djebbari a été rapporteur de la réforme de la SNCF en 2018. Cet ex-pilote de ligne va entrer très vite dans le vif du sujet, car il devra défendre le tentaculaire projet de loi sur les mobilités qui passe en nouvelle lecture au Palais Bourbon. Eh bien, ce sera la semaine prochaine.
Cyril Graziani, merci beaucoup.
Ça bouge à Westminster.
Oui, les députés britanniques sont rentrés cet après-midi et Boris Johnson est encore plus dans la tempête qu'avant. L'opposition et certains de son propre camp veulent empêcher un Brexit sans accord sur fond de menaces d'élections anticipées. Antoine Gignot, le Premier ministre annonce qu'il sera en Irlande lundi prochain et dès le début des débats cet après-midi, eh bien, il perd sa majorité absolue au Parlement.
C'est un coup de théâtre en plein milieu du discours de Boris Johnson. Philippe Lee, membre du Parti conservateur depuis 27 ans, se lève, quitte ses collègues et laisse derrière lui un communiqué. « Je suis consterné, dit-il, le gouvernement utilise l'intimidation et les mensonges, je pars chez les libéraux démocrates. » Confusion totale dans la salle, à la tribune, Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition, en profite pour se moquer de Boris Johnson.
Il se coupe de ses amis européens, il perd des amis, ici dans son pays. C'est un gouvernement qui n'a pas de mandat, aucune morale, et depuis cet après-midi, qui n'a pas de majorité.
En face, le Premier ministre accuse le coup, Boris Johnson prend la salle à témoin, essaye de se faire passer pour la victime d'un complot ourdi par les députés et défend sa vision du Brexit.
Et voilà, c'est ça qu'ils veulent, saper notre travail, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent nous forcer à mendier un nouveau report inutile du Brexit. Et si c'est ce qui se passe, tous les progrès que nous aurons faits n'auront servi à rien.
Et puis le Premier ministre se ressaisit, il menace de nouveau d'exclure de son parti les députés rebelles, il appelle à ne pas repousser le Brexit. Le débat officiel n'a pas encore commencé, mais le Parlement est en ébullition.
Antoine Gignot depuis Londres, et cet avertissement aussi des Nations Unies, un Brexit sans accord ferait perdre aux Britanniques 16,5 milliards d'euros d'exportation vers l'Union Européenne et plusieurs autres milliards vers les autres pays. L'ouragan Dorian, toujours menaçant mais rétrogradé en catégorie 2. Il se dirige lentement vers la Floride. Au moins 61 000 personnes ont besoin d'aide alimentaire aux Bahamas, d'après les Nations Unies. Les vents à 300 km/h et les vagues de 6 mètres ont fait de gros dégâts. Témoignage ici d'un habitant de l'île de Grande Bahama qui filme sa maison inondée. On est à Pine Bay.
Regardez-moi ça. Je n'ai jamais vécu une telle situation. C'est la première fois que je vois ça. Heureusement que nous avons pu construire un étage à 8 mètres au-dessus du sol. Tout ce que nous avions au rez-de-chaussée est totalement foutu. Les murs de nos voisins à côté de chez nous ont totalement disparu, submergés. Et là, je crois qu'en apercevant notre panneau de basket, vous pouvez imaginer la hauteur de l'eau. Nous sommes littéralement à l'intérieur de l'océan. Il est partout autour de nous.
Et Dorian perd maintenant en puissance, mais gagne en surface et il se dirige donc vers la Floride. La chef de l'exécutif de Hong Kong dément, Carrie Lam n'a pas l'intention de démissionner, contrairement à ce qu'elle laisse entendre dans un enregistrement audio diffusé par la presse, où elle juge impardonnable d'avoir créé un tel chaos dans l'ancienne colonie britannique. 3 mois de crise depuis sa loi qui vise à autoriser les extraditions vers la Chine. Pékin qui dit soutenir fermement Madame Lam.
À 19h presque 11, Sébastien Aiglazur aiguise les appétits.
La compagnie aérienne est en redressement judiciaire depuis hier et 3 dossiers de reprise sont déjà sur le bureau de l'administratrice judiciaire, dont celui d'Air France, Philippe Lefebvre. Quel intérêt pour la compagnie nationale à racheter Aiglazur ?
Eh bien, ce qui intéresse Air France, c'est une chose qui vaut de l'or. C'est ce que l'on appelle les slots, en clair, les créneaux disponibles dans les aéroports qui, avec l'accroissement du trafic aérien, deviennent une denrée rare. Pour vous donner une idée, il y a quelques années, British Airways avait proposé 10 millions de livres à plusieurs petites compagnies pour acquérir leurs droits de trafic à Heathrow. Et là, Aiglazur dispose de droits de trafic qui intéressent beaucoup Air France sur l'Algérie et sur le Portugal, ce qui pourrait permettre par ricochet à Transavia, la filiale low cost du groupe Air France KLM, de proposer plus de vols en direction du Portugal. Alors visiblement, l'administratrice judiciaire en charge du dossier veut aller vite car il y a urgence. Les billets d'Aiglazur ne se vendent plus dans les agences de voyage. C'est ce que reconnaît Jean-Pierre Masse, le président du syndicat des entreprises du voyage.
Les ventes aujourd'hui sont fortement diminuées, voire complètement arrêtées dans les agences de voyage, qu'elles soient physiques ou en ligne, parce que nous n'avons pas la certitude que les vols seront assurés et que les clients, que les passagers pourront partir.
Et en attendant le nom de ce repreneur, Aiglazur va réduire ses vols, ce qui provoque déjà un mécontentement certain chez les passagers habituels de la compagnie.
Il est présenté comme l'hypermarché du futur, avec plus de bio et de local, avec un restaurant et des caisses différentes et plus rapides. Hyper inauguré aujourd'hui dans le centre commercial de la Toison d'Or à Dijon. Une enseigne Carrefour Next qui mise sur les 8 millions de visiteurs annuels de la galerie. Un nouveau concept donc, Sophie Allemand, où on ne trouve plus tout au même endroit.
Fini la classique allée centrale avec les promotions et les rayons sur le côté. Les habitués comme Mireille sont perdus.
Je ne retrouve plus rien, je suis désorientée. Là, je tourne en rond, je regarde.
Maintenant, on parle d'univers, des sortes de blocs, l'univers bébé, l'univers culture. Mais certains univers ont disparu, comme explique Marie Cheval, directrice exécutive des hypermarchés pour Carrefour en France.
Il n'y a plus de sport, plus de bijouterie, il n'y a plus de gros électroménagers. Par contre, il reste l'essentiel du non-alimentaire.
Là, Mireille comprend mieux. Elle ne venait plus ici pour trouver une machine à laver, par exemple.
Tout a changé, la société a changé, donc voilà, oui, ça date.
C'est tout à fait ça, confirme Marie Cheval.
L'hypermarché a été créé il y a 60 ans avec cette idée de tout sous le même toit. Depuis 160 ans, les modes de consommation ont beaucoup changé. Il y a eu, les spécialistes sont apparus, Internet est apparu, et donc on ne peut plus concevoir le magasin comme il y a 60 ans.
Carrefour s'est donc replié vers des produits pour lesquels ils se sentent légitimes. Par exemple, l'univers beauté est immense. L'offre de beauté masculine a été élargie avec des produits pour les barbes qui sont très tendances en ce moment.
Sophie Allemand à Dijon et 3 autres hyper de ce type devraient ouvrir d'ici la fin de l'année à Flins en région parisienne, à Anglette et à Marseille. Ce petit trésor maintenant sur lequel est tombé un couple qui vient de reprendre un fonds de commerce du centre-ville de Hyères, magasin fermé depuis au moins 30 ans et dans la réserve, un stock de vêtements neufs, tout aussi âgés, manteaux, pulls, maillots de bain, des sous-vêtements même, du vintage très recherché aujourd'hui et bradé entre 5 et 25 euros. La boutique restera ouverte jusqu'à ce que tout soit parti et évidemment, elle ne désemplit pas.
Dans ce magasin, je suis rentrée je ne sais combien de fois avec ma maman pour acheter des vêtements et ça me fait plaisir d'y revenir. Vraiment, une séquence émotion.
Alors ça, vous voyez, c'est un certificat de garantie numéroté sur chaque vêtement que vous avez à l'époque. Et s'il y avait un problème, on les retournait au détaillant. C'était pris en garantie.
À l'époque, ça coûtait combien ?
Alors, ces prix-là, c'était 140 francs, je crois, à l'époque.
Ce qui était énorme, déjà.
Ce qui était énorme, absolument. Ouais. Donc, c'était des vêtements que pas tout le monde pouvait se payer, effectivement. Ouais. Mais qu'aujourd'hui, on peut se payer grâce au déstockage qu'on fait. Et ils sont tout neufs, hein, ils étaient dans les cartons, et voilà.
Qu'est-ce que vous cherchez, vous, monsieur ?
Alors, c'est un article qu'on ne trouve plus. Vraiment plus. C'est le véritable fuseau des années 60.
Et là, vous avez trouvé ?
Oui, il y en a toute une série.
Ce qui est sympa, c'est de voir l'épaisseur des matières, même les finitions et tout. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui, quoi.
Le fuseau des années 60, reportage signé Christelle Marques. Ils sont présents dans l'organisme de tous les Français, 6 polluants du quotidien mesurés par Santé publique France, bisphénol, phtalates, solvants et autres parabènes. Certains d'entre eux sont des perturbateurs endocriniens ou les cancérigènes connus ou possibles. Tout est en détail sur franceinter.fr. Les maladies cardiaques restent la principale cause de mortalité dans le monde, mais le cancer tue désormais plus de gens dans les pays riches, un peu plus du quart des disparitions selon la Société européenne de cardiologie. D'après les chercheurs, le cancer sera probablement la cause la plus courante de décès dans le monde dans quelques décennies. Le sport est finalement un transfert de plus en Ligue 1, celui du capitaine de Nantes, Valentin Rongier, qui va bien être transféré à Marseille comme joker, d'après nos collègues de France Bleu Loire-Océan. Sur les courts, à l'US Open, c'est du tennis. Federer pour une place en demi-finale la nuit prochaine face au Bulgare Grigor Dimitrov, joueur précoce et surdoué, Fabrice Abgral, mais qui n'a pas confirmé en 2008 quand il est devenu professionnel à 16 ans.
C'était le successeur annoncé des Nadal, Federer et Djokovic. Aujourd'hui, à 28 ans, Grigor Dimitrov occupe une bien modeste 78e place mondiale, ce qui ne correspond en rien au talent phénoménal de ce garçon considéré au départ comme le joueur le plus doué de sa génération. Dimitrov, c'est le clone de Federer. Son tennis, dans la gestuelle, est tellement proche techniquement du Suisse qu'à ses débuts, il a été surnommé Baby Federer. Une comparaison forcément difficile à assumer. Patrick Mouratoglou a été l'entraîneur de Dimitrov en 2012.
Ça lui a porté préjudice parce que cette étiquette qui lui a collé à la peau, il l'a très mal géré sur le plan psychologique et ça l'a vraiment handicapé dans sa progression.
Grigor Dimitrov est aussi connu pour avoir été le fiancé de Maria Sharapova durant 2 ans. Là aussi, une situation que le Bulgare a eu du mal à gérer.
Il a trop eu tendance dans le passé à exister à travers d'autres gens. C'était bébé Federer, ensuite c'était le petit ami de Sharapova. Je pense que d'avoir autour de soi des personnes qui médiatiquement ont trop de poids, ça l'a empêché aussi de s'épanouir. Des gens qui ont des très grosses personnalités et qui prennent beaucoup de place, c'est jamais très bon pour pouvoir s'épanouir et s'émanciper. Donc je pense que ça lui a fait perdre du temps.
À Dimitrov aujourd'hui de saisir l'occasion d'atteindre sa 3e demi-finale en Grand Chelem, mais pour cela, il va devoir battre Federer, ce qu'il n'a jamais fait en cette confrontation.
Le match a donc lieu cette nuit, Fabrice Abgral, à New York. La première sélection du Goncourt, 15 titres et pas celui de Yann Moix. Il y a en revanche Amélie Nothomb, Jean-Paul Dubois ou encore Karine Thuil, ainsi que 2 premiers romans, Sœur d'Abel Quentin et Avant que j'oublie d'Anne Pauly, un texte envoyé par la poste à son éditeur. Le Goncourt est décerné le 4 novembre et demain à 8h20, c'est un autre romancier et philosophe qui sera au micro d'Inter, Pascal Bruckner. On termine avec un rat au museau masqué et muni d'un crayon. C'était le pochoir de Banksy derrière le panneau d'entrée du parking du centre Pompidou à Paris. Eh bien, ce panneau a disparu. Bonsoir Jacqueline Petrose.
Bonsoir Sébastien.
Et le musée a porté plainte.
Alors, cette œuvre avait déjà fait l'objet d'une tentative de vol en juillet 2018 et des agents de sécurité faisant une ronde l'avaient fait fuir les voleurs. L'opération en général prend très peu de temps puisque les malfaiteurs découpent l'œuvre avec une disqueuse et cette œuvre est quasi invendable. Alors, quelles sont les hypothèses? Nicolas Longereau, directeur de l'ICAR, l'école du marché de l'art.
Soit un collectionneur voyou, hein, fanatique, qui enverrait comme ça un commando voler ses œuvres et qui les mettrait dans un coffre pour quelques décennies, ou alors une bande de délinquants qui, en volant ses œuvres, s'imaginent pouvoir les revendre. Ce qui va être assez compliqué parce que ces œuvres iconiques, très connues dans la rue, n'ont aucune valeur de marché.
Alors les œuvres de Banksy, dont l'identité est toujours secrète, ont pris énormément de valeur, un comble puisqu'ils dénoncent la spéculation.
Depuis près d'une vingtaine d'années, Banksy fait des œuvres satires du marché de l'art. Quand son œuvre s'autodétruit chez Sotheby's dans une vente du soir à Londres, c'est aussi ça son propos, d'expliquer à quel point le marché de l'art est spéculatif et qu'il joue avec ce marché. Mais chaque fois, la cote monte, c'est assez dingue.
Pour cette œuvre précise, vous l'avez dit, le Centre Pompidou a donc porté plainte pour dégradation, expliquant qu'elle se trouvait dans un espace relevant de son périmètre.
Et des vols comme ça de Banksy, il y en avait eu d'autres à Bristol, à Londres ou à Toronto.
Ou même au Bataclan, puisque la porte du Bataclan,
l'échappatoire du Bataclan après les attentats.
Elle a été découpée.
Merci Jacqueline Petrose, ainsi s'achève cette édition Fabienne Synthèse.
Et merci Sébastien Pahou, on se retrouve donc demain. Nous, on reste ensemble avec le téléphone sonne, ne bougez pas et on s'occupe de tout.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R la mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous ? comment ça va?
Et Sébastien Léas, l'arrivée d'une perturbation, dites-moi, par le nord-ouest.
Oui, les nuages vont progressivement envahir le ciel de la Bretagne, la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais demain matin. Se décalant l'après-midi jusqu'au bassin parisien et au Pays de la Loire, cette perturbation donnera un peu de pluie sur son passage. Des pluies faibles et localisées au sud de la Seine et un peu plus régulières sur les Hauts-de-France. Et puis le vent va également se renforcer. Après le passage de la perturbation en matinée, la Bretagne, la Normandie et l'ouest du Pas-de-Calais retrouveront un temps bien ensoleillé demain après-midi. Partout ailleurs, le temps sera plus calme et surtout largement ensoleillé demain avec un ciel quasiment tout bleu. On notera juste quelques bourgeonnements nuages sur les Pyrénées, les Alpes du Sud et le relief de la Corse.
Et sinon, ambiance assez douce, voire estivale.
Oui, avant une forte baisse attendue à partir de jeudi, les températures resteront nettement au-dessus des normales de saison demain. 24 degrés à Biarritz et à Paris, 25 degrés à Reims, 27 degrés à Strasbourg, Nevers et Bordeaux, 28 degrés pour Lyon. On ira jusqu'à 29 degrés à Albi et à Cannes, 30 degrés à Calvi et Valence, 31 à Béziers et même 34 degrés pour Alès. En revanche, la baisse va déjà s'amorcer sur le nord-ouest avec 19 degrés pour Rouen et 22 degrés à Vannes et à Saint-Quentin.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup.